c'est un peu cliché, mais l'entrepreneur, il se lance dans le vide, puis pendant qu'il est en train de tomber, ben il invente son parachute. Fait que c'est très cliché comme image, mais c'est un peu ça. Fait que des certitudes, il y en a pas. Si c'était tellement une certitude, ça serait plus de l'entrepreneuriat, ça serait un projet d'investissement.
Pétan, c'est une organisation dans le domaine technologique qui est spécialisée dans la catégorie de la santé. Ils aident les gens dans le domaine de la santé partout au Québec et tranquillement partout au Canada. Une organisation qui a été lancée en 2009, donc ça fait 15 ans maintenant qu'ils sont en affaires. Et croyez-moi, la croissance, eux, ça les connaît. 2009, tu t'aperçois qu'il y a des soucis. Il y a des soucis de logistique, un peu des enjeux dans le système de santé. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte que peut-être qu'il pouvait y avoir une meilleure solution?
Le premier problème, c'est de dire que les professionnels de la santé passaient beaucoup trop de temps de créer, de gérer leur temps et de gérer les horaires. Il m'est arrivé en regardant l'industrie de la santé en me disant qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Donc, je me suis intéressé à la formation médicale continue, de la messagerie plus instantanée entre professionnels de soins et tout ça. Puis là, j'ai fait des représentations des médecins. Et il y a un médecin qui est venu me voir puis qui me dit « Mais moi, j'ai vraiment un problème d'horaire. » Donc, ça l'a accéléré un peu ça et on a fait une preuve de concept. On a regardé le marché puis on s'est dit qu'on allait foncer.
Est-ce que je me trompe de dire que il doit pas y en avoir beaucoup des joueurs comme Pétal? Et plus que tu avances dans le processus, plus que ça doit faire peur pour des joueurs externes de se dire, ils ont tellement d'hôpitaux, ils ont tellement de médecins, ils ont tellement une masse critique que s'aventurer là-dedans, c'est peut-être assez compliqué, là.
Par rapport à la compétition, on profite de ce qu'on a généré comme avantage compétitif, mais en même temps, on ne se place pas dans un état d'esprit où on pense que ça va suffire.
Donc, bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter l'entretien que j'ai avec Patrice Gilbert, CEO et fondateur de l'entreprise Pétal. Pour les gens qui ne connaissent pas Pétal, c'est une organisation dans le domaine technologique qui est spécialisée dans la catégorie de la santé. Ils aident les gens dans le domaine de la santé partout au Québec et tranquillement partout au Canada. Une organisation qui a été lancée en 2009, donc ça fait 15 ans maintenant. Sont en affaires. Et croyez-moi, la croissance, eux, ça les connaît. Aujourd'hui, dans l'entretien, ce qui est très intéressant, c'est qu'en décortiquant le parcours de Patrice, on va se rendre compte d'une chose. On va se rendre compte que Patrice a fait partie de l'aventure de Taléo, l'aventure que Louis Tétu, qui est déjà venu sur le podcast à l'épisode 100, nous avait raconté, une organisation, Taléo, encore une fois dans le domaine technologique, la ville de Québec, qui, pour les gens qui ne le savent pas, a été vendue quelques milliards de dollars en 2012 à l'entreprise Oracle. Patrice faisait partie de ce groupe de gens, d'employés qui ont travaillé chez Taléo pour par la suite aller bâtir son organisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que Louis Tétu, le fondateur de Taléo, le président, le directeur général de l'organisation à l'époque, est devenu le chef du conseil d'administration de Pétal aujourd'hui. Comme quoi, quand on bâtit des bonnes relations dans notre carrière, ces bonnes relations-là peuvent nous suivre. On discute donc, Patrice et moi, de la croissance qu'ils ont été capables d'avoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que la croissance de Pétal s'est faite de manière itérative. C'est-à-dire qu'ils ont entouré un enjeu dans le système de la santé. Les gens avaient de la misère avec des logiciels pour savoir les horaires de leurs employés, pour savoir comment que les gens pouvaient booker du temps avec littéralement des médecins. Patrice est parti de cette problématique-là, a été capable de la régler avec son équipe, tranquillement a vu d'autres problématiques. Il a acheté donc au final 5 autres organisations à travers le temps qu'il a intégrées à Pétal pour augmenter la ligne de produits qu'il était capable d'intégrer à Pétal. Donc vraiment une histoire assez intéressante. On parle donc de croissance par acquisition. On parle également de levée de fonds. Patrice est un excellent vulgarisateur, un excellent communicateur qui nous explique comment voir grand. Une chose qui, des fois, au Québec, va nous manquer. On a des belles, grosses business que j'aime bien dire souvent au Québec, mais c'est rare qu'on veut vraiment bâtir des choses qui vont révolutionner le monde. Et clairement, Patrice est dans cette catégorie d'entrepreneur-là, un entrepreneur qui veut changer les choses. Donc, vous allez voir, c'est un entretien qui est totalement fascinant, une organisation Pétal qui, selon moi, on va continuer à entendre parler dans les prochaines années. Également, comme à chaque semaine, on vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts ou sur YouTube. Ça nous aide énormément pour faire grossir le podcast. Et dernier point avant de vous laisser à la discussion du jour, vous le savez, le 24 mai prochain, dès 18h à l'hôtel Alt de Montréal, on a le premier événement du podcast Hypercroissance qui se nomme Panel d'hypercroissance. On vous a dit dans le dernier podcast qu'un premier panel qui a été confirmé, un panel qui va porter sur la croissance par acquisition de 3 entrepreneurs qui vont venir parmi nous. On va vous les annoncer bientôt. Ça va être des joueurs que vous avez déjà entendu parler et qui, à mon avis, vous allez reconnaître très rapidement. Et cet événement-là ne pourrait pas avoir lieu sans nos 3 partenaires. Partenaire numéro 1, Hello Darwin, une plateforme technologique québécoise qui vous met en relation avec votre partenaire marketing. Je les ai utilisés plusieurs fois dans le passé. Je recommande à chaque fois Hello Darwin, à chaque fois que les gens me demandent « Antoine, connais-tu quelqu'un qui pourrait refaire mon site web? Antoine, connais-tu quelqu'un qui pourrait gérer mes campagnes Google? » Je redirige les gens vers Hello Darwin. On a également Acumbago qui est partenaire de l'événement Acumbago, qui est un logiciel comptable utilisé par plus de 40 000 PME à travers le Québec. Vous imaginez, des gens que je connais très bien, des amis à moi, je vous invite à aller voir leur plateforme technologique si vous voulez en savoir un peu plus. Et le dernier commanditaire, le groupe Plante, Simon Plante, que vous avez peut-être déjà entendu sur le podcast, qui se prête à l'événement. Simon, que j'ai une confiance absolue, c'est lui, comme je l'ai déjà dit, qui gère mon propre argent. Je lui fais excessivement confiance. Et si vous cherchez quelqu'un qui peut vous conseiller au niveau de vos finances, qui peut vous aider vraiment dans votre gestion de patrimoine, allez voir Simon. C'est une personne que je fais confiance. Je lui réfère plein de clients et je vous invite à aller considérer ses services. Sur ce, on vous souhaite un excellent épisode. Patrice Gilbert, vous êtes le président et fondateur de Pétale, un leader canadien de services conseils et de développement de solutions technologiques dans le domaine de la santé. Fondée en 2010, l'entreprise compte plus de 350 employés et est partie dans 7 bureaux. Au Canada, en France et aux États-Unis, collaborant avec plus de 900 établissements de santé et profitant à 8 millions de patients qui voient la qualité de leurs soins s'améliorer. Patrice Gilbert, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Bonjour Antoine, un plaisir d'être là.
Patrice, avant de rentrer dans notre entretien et de parler de cette évolution qui a été assez impressionnante, celle de Pétale, est-ce que ce serait possible pour toi aujourd'hui de nous expliquer en détail ce que ton entreprise fait au quotidien pour les différents patients?
Absolument, Antoine. Donc, l'entreprise Pétale, on fait 3 belles affaires. Donc, on se concentre dans la gestion de la capacité. Ça veut dire quoi la capacité? Ça veut dire ben quel professionnel est disponible quand. Donc, on a différents produits pour bien faire la gestion de ça. Pour des hôpitaux complets, pour des cliniques médicales, pour des grands regroupements, pour des autorités de santé. Donc, on s'occupe de gérer le temps, les horaires, la disponibilité des soignants, que ce soit des infirmières, des médecins, des résidents. Donc, ça, c'est une première chose qu'on fait. Donc, on appelle ça le medical supply. C'est qui est disponible ce matin pour prendre les patients, que ce soit en clinique médicale, dans les hôpitaux ou dans d'autres établissements. Ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Et là, de ça, ben, on est la plus grande compagnie au Canada et on gère des millions d'heures de disponibilité mensuellement. Donc, je pense qu'on est rendu à 72 millions d'heures de disponibilité de soignants par mois. C'est comme ça qu'on mesure notre croissance au fur et à mesure qu'on déploie nos outils. La deuxième chose qu'on fait, c'est que on s'occupe aussi de capturer les demandes de soins. Et les demandes de soins, ils peuvent venir encore aujourd'hui d'un fax, d'un appel téléphonique, d'un portail patient. Ils peuvent venir d'une référence d'un médecin qui veut vous envoyer voir un autre professionnel de la santé, etc. Donc, ces demandes-là arrivent d'un peu partout. Et ce qu'on fait avec notre technologie, c'est qu'on les accumule. Et le but de l'orchestration des soins, c'est de trouver le bon professionnel pour le bon patient au bon moment pour la bonne raison, pour vraiment augmenter l'efficacité du système. Et évidemment, étant donné qu'on est assis sur toute la gestion de la capacité, qui est la première chose que je vous racontais, ben ça vient nourrir l'orchestration des soins et on est capable de trouver le bon professionnel pour la bonne raison. Dans le cas des patients, pourquoi ça les aide, c'est que on est en mesure de dire, ben quand il faut aller à l'urgence, il faut aller à l'urgence, mais s'il faut voir son professionnel médecin, ben on l'envoie pour la bonne raison, mais si c'est seulement pour un renouvellement de prescription, on essaie de l'envoyer voir son pharmacien pour pas prendre une plage qui aurait été évitée à quelqu'un qui a vraiment besoin d'aller voir son médecin. Donc, dans la société d'aujourd'hui, dans les sociétés modernes, les gouvernements et les sociétés font face tous au même problème. Puis ces problèmes-là, c'est le vieillissement de la population, les besoins de santé qui augmentent, de moins en moins de travailleurs qui sont capables. Donc, vous avez vu les journaux, il y a moins d'infirmières, il y a moins de médecins, la demande augmente. Qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise la technologie dans le milieu pour être certain que chacun des professionnels qui est disponible va rendre des services de soins aux bons patients, au bon moment, pour les bonnes raisons. Donc, on utilise vraiment la technologie de pétale pour accroître l'efficacité des systèmes de soins. Donc, et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on fait de la facturation médicale. Donc, pour éviter que les médecins perdent du temps à remplir trop de paperasse pour leur facturation, on automatise et on met l'intelligence artificielle au service des médecins pour accélérer et rendre conforme leur facturation qu'ils ont à faire. Donc, c'est les trois volets dans lesquels on joue présentement. Donc, vous pouvez vous rendre compte qu'on est en, on appelle ça du médico-administratif. On n'est pas dans les aspects cliniques. On fait pas, on rend pas de diagnostic. On fait pas de radiologie. Mais on s'occupe vraiment que le système soit de plus en plus efficace.
Et on le sait, il y a énormément de défis avec le système de santé. Je pense que tout à l'heure, tu pourras nous expliquer un petit peu comment tu avais diagnostiqué la situation à l'époque. Mais revenons peut-être un petit peu plus en arrière, Patrice. Bon, avant même la fondation de l'entreprise qui s'est faite en 2009, si on analyse bien ton parcours, on peut voir que tu as travaillé chez Taléo comme directeur du développement de produits. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Taléo fut l'entreprise que Louis Têtu et son équipe ont amené public avant de vendre cette dernière à Oracle pour près de 2 milliards de dollars en 2012. Louis Têtu, d'ailleurs, qui était venu sur le podcast pour l'épisode 100. Toi, tu as été là-bas de 2003 à 2008, 2009 environ. Je serais curieux peut-être si tu pouvais nous ramener à cette époque-là, nous dire comment était la dynamique, l'effervescence dans l'entreprise, parce que finalement, ça a été un fleuron québécois, un très grand succès. Tu as dû œuvrer avec des gens excessivement brillants. Je serais curieux de t'entendre un petit peu ici.
Oui. Premièrement, c'est un privilège pour moi dans ma carrière de pouvoir avoir cette expérience-là. J'ai passé 6-7 ans chez Taléo. Ça a été un feu roulant. Et j'en parle encore dans mes rencontres trimestrielles. Donc, à tous les trimestres, je parle à tous les employés de Pétale. Et je leur dis l'anecdote. Vous savez, quand j'étais chez Taléo, on travaillait très fort, puis on était très motivés, puis c'était un feu roulant. Puis on pensait que c'était juste des problèmes. Mais finalement, ça s'est appelé le succès. Puis je l'avais pas reconnu à ce moment-là. Donc, je disais à mes employés aujourd'hui, Pétale, c'est ça. Quand on arrive, on règle des problèmes, on s'améliore, on règle des nouveaux problèmes, on continue d'innover. Puis là, vous trouvez ça difficile, puis on est dans la gestion du changement constant, puis on a des taux de croissance qui sont importants, puis il faut redéfinir des processus, puis on veut tout le temps aller par en avant, puis des fois, vous trouvez ça difficile. Mais je vais vous dire un secret, ça s'appelle le succès. Fait que profitez-en, profitez de la ride, parce que c'est pas tout le temps qu'on a le privilège de vivre des beaux projets comme ça puis des beaux parcours comme ça. Puis moi, j'ai eu ce privilège-là chez Taléo. Puis ça m'a rendu un professionnel plus aguerri, plus expérimenté. Puis on n'est jamais prêt là pour devenir entrepreneur. Là, il nous manque tout le temps quelque chose. C'est comme quand on décide de faire des enfants. On n'est jamais vraiment prêt. Puis on décide d'y aller. Puis ensuite, ben on s'organise puis on trouve des solutions. Mais il reste que mon passage chez Taléo m'a vraiment apporté un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entrepreneurs, étant donné toute l'aventure que j'ai vécue. On a travaillé avec les plus gros clients mondiaux. J'ai été parachuté à New York pour aller régler des problèmes avec Bank of America. Ensuite, on m'a parachuté en tant qu'ingénieur chez Renault au cœur de Paris pour régler d'autres problèmes avec une table remplie d'exécutifs. Je veux dire, on a vécu des choses chez Taléo qui ont été d'une amplitude mondiale. Et puis ça, ben ça m'a donné, je crois, la vision de l'ambition. Que c'est pas parce qu'on est au Québec qu'on n'est pas capable d'en faire des grosses affaires. Puis quand mon passage chez Taléo m'a amené ça. C'était pas comme préparé, mais je veux dire, en répondant tout de go à cette question-là, je pense que c'est ça. En y pensant, c'est de planter la graine de l'ambition puis de devenir les plus gros au Canada, ben non, c'est les plus gros mondiales qu'on veut devenir. Puis je pense que c'est ça qui me reste fondamentalement de mon passage chez Taléo. Puis travailler avec Louis, travailler avec toutes les équipes que Louis avait assemblées là-dedans, ça a été un privilège exceptionnel.
un changement de mindset peut-être?
Absolument. Le passage de passer d'une plus petite entreprise à aller dans un feu roulant comme ça où c'est jamais assez vite, c'est jamais assez gros. Donc, ça vient vraiment planter une graine de l'ambition. Et l'ambition, d'ailleurs, est une de nos valeurs corporatives chez Pétale. Fait que, Antoine, ça vient peut-être de là.
Ah, j'adore ce que j'entends. Puis peut-être dernière petite question sur ce sujet. Quand tu es arrivé en 2003, est-ce que très rapidement, tu as senti cette effervescence-là, qu'il y avait quelque chose qui se déroulait dans l'entreprise? Peut-être que ça a pris quelques années. Peut-être que tu as même des anecdotes à nous dire ici.
Ben, je suis arrivé très certainement dans un moment où ça a toujours été un feu roulant. Les objectifs n'ont jamais arrêté d'être de plus en plus ambitieux. Moi, personnellement, ça m'a pris comme une année et demie à me placer comme contributeur individuel. Et mon supérieur, donc, avait été muté. Et là, ben, le supérieur de mon supérieur est venu me chercher puis il m'a dit, t'as le nez fourré partout, là, t'as l'air à aimer ça, la gestion. Fait qu'il dit, c'est bon, il dit, tu vas ramasser l'équipe. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai été plus dans la gestion et j'ai lâché, finalement, le développement logiciel. Et ça a été un tournant dans ma carrière après un an et quinze. Et là, je suis devenu gestionnaire de l'équipe. Et là, j'ai eu beaucoup de promotions à la suite de ça. Et cette personne-là qui m'a nommé manager, c'est Mark Hughes. Et Mark Hughes est resté mon mentor pendant toutes mes années chez Taléo. Et Mark Hughes, aujourd'hui, est sur mon conseil d'administration chez Pétale. Donc, comme tu vois, la filière Taléo a amené des relations de longue durée, des relations de confiance, et on est capable de bâtir là-dessus. Et j'ai toujours dit que les projets comme les projets de Taléo, dans une petite communauté comme la ville de Québec ou même le Québec, c'est des pépinières à d'autres projets. J'ai toujours dit qu'un de mes rêves, moi, c'était quand même d'avoir des employés qui font un passage chez Pétale et qui accumulent un bagage nécessaire pour partir d'autres entreprises de leur côté. Puis ça, ben, c'est déjà arrivé. Fait que on est très content de faire partie de la roue de la création de valeur au Québec.
Bien sûr. Et bon, tu parlais que tes relations avec Taléo ont été bonnes, qui se sont continuées par la suite. Et je crois même que Louis Tessu fait partie de votre conseil d'administration. Je pense même peut-être qu'il préside votre conseil d'administration.
Absolument.
Au moment
Louis,
où on se parle.
Louis est notre chairman. On est très privilégiés. Antoine, tu peux pas t'imaginer le nombre de compagnies qui rêveraient d'avoir Louis comme chairman. Fait que excessivement privilégié d'avoir Louis qui continue de nous supporter après toutes ces années-là. Tu comprendras que Louis a un agenda chargé.
Bien sûr.
Il nous offre son précieux temps. Et donc, moi, c'est devenu un collègue et mentor depuis toutes ces années-là. Donc, très privilégié de pouvoir continuer à travailler avec Louis sur le projet Pétale.
Fascinant. Et bon, parlons un petit peu Pétale. Donc, tu es chez Taléo de 2003 à peu près jusqu'en 2009. 2009, tu t'aperçois qu'il y a des soucis. Il y a des soucis de logistique, un peu des enjeux dans le système de santé. Essentiellement, ce que je lisais en faisant mes recherches, c'est que les professionnels passent des centaines et des centaines d'heures par année sur Excel à bâtir des horaires, faire des tâches administratives. Bref, le processus semble inefficace. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte que peut-être qu'il pouvait y avoir une meilleure solution? Comment tout ça est venu à ton attention?
Fait que, en premier, donc ça a été le premier problème qu'on a résolu. Aujourd'hui, à 350 employés, presque bientôt 400, je veux dire, on a réglé plein d'autres problèmes. On a gamme de produits qui est complète, on a une plateforme. Mais le premier problème, ça a été celui que tu as décrit, de dire que les professionnels de la santé, les médecins passaient beaucoup trop de temps sur des tâches comme de créer, de gérer leur temps et de gérer les horaires. Mais avant ça, ce qui est intéressant, Antoine, c'est que tout ce processus-là d'idéation au début, ben, il m'est arrivé en regardant l'industrie de la santé et en me disant qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Mais je savais pas exactement quoi. Ce que je savais, c'est que, étant donné que je n'étais pas médecin, ben, toute la considération clinique, la considération de prendre une décision, de rendre justement un diagnostic, c'était pas pour moi. Donc, tous les systèmes cliniques, là, je sentais que j'avais pas quelque chose à apporter là-dedans. Mais tout ce qui était un peu dans le médico-administratif, je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose avec le bagage que j'avais eu chez Taléo, que je peux apporter quelque chose là-dedans. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et là, j'ai eu plein de mauvaises idées. Donc, je me suis intéressé à la formation médicale continue. de voir si je pouvais faire de quoi là-dedans. Ensuite, de la messagerie plus instantanée entre professionnels de soins, tout. Et là, ben, ce que j'ai fait, c'est que je me suis promené avec un PowerPoint, puis là, j'ai mis des belles petites fleurs, puis là, j'ai dit, ben, ça s'appelle Pétale, puis là, j'ai fait des représentations des médecins. Et là, il y a des médecins qui sont venus me voir, mais ils ont dit, ah, c'est super, t'as beaucoup d'énergie, c'est le fun, tes idées, on sait pas trop, là, si on est intéressé, mais il y a un médecin qui est venu me voir puis qui me dit, mais moi, j'ai vraiment un problème d'horaire. Fait qu'il dit, dans tout ce que t'as parlé, qui était tout un peu mes pétales, fait que là, il y avait le premier pétale qui était la formation médicale continue, deuxième pétale, la communication, le troisième pétale, la gestion du temps. Il me dit, lui, là, c'était ça. C'est vraiment celui-là où j'ai vraiment de la difficulté. Donc, ça l'a accéléré un peu ça et on a fait une preuve de concept pour aider ce médecin-là. On est allé, on a compris le problème, on s'est assis avec les médecins, puis on est devenu expert un peu là-dedans. On a regardé le marché, puis on s'est dit qu'on allait foncer. Donc, on a foncé dans la gestion des horaires qui est, pour les médecins, qui est une relation d'interdépendance. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent pas prendre Outlook, parce que si le médecin A est de garde, ben le médecin B n'est pas de garde. Et si moi, je suis au bloc opératoire, ben le bloc opératoire, il est pris. Donc, il y a une interdépendance dans la gestion des horaires, des responsabilités, des privilèges. Et c'est ça où on a amené l'intelligence artificielle pour aider les médecins avec les nombreuses règles, les préférences et toutes les règles d'affectation qui permet maintenant aux médecins d'accélérer et d'optimiser finalement la disponibilité des médecins. Donc, c'est le premier problème qu'on a réglé.
Puis, je te pose une question ici. Donc, tu es tombé, on pourrait dire, un petit peu dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qui fait que ça a été, disons, le domaine de la santé plus que, disons, le domaine de la construction? Est-ce qu'il y a une anecdote? Est-ce qu'il y avait des gens proches de toi, de la famille, qui t'avaient démontré des inefficacités dans ces différents processus, différents systèmes?
Ce qui m'a attiré là-dedans, ça a été un peu de pouvoir aider. Donc, c'était noble quand même d'aider la santé. On a tous des épisodes où on a un proche qui a subi, qui a eu besoin du système, puis on veut tout que notre système de santé publique soit le plus productif possible et amène le plus d'efficacité possible pour qu'on puisse le garder le plus longtemps. Moi, quand je voyais que des cardiologues passaient, donc c'est une histoire vraie, au CHUM, avant d'avoir pétale, ben les cardiologues s'arrêtaient, donc deux cardiologues s'arrêtaient toutes les six mois, ils s'arrêtaient deux semaines de travailler. Donc, deux cardiologues qui s'arrêtent pendant deux semaines à toutes les six mois, ça veut dire que c'est deux mois de cardiologues par année pour faire les horaires au CHUM en cardiologie. Puis moi, mon père, chez nous, j'ai une Saguenay, fait du cholestérol, c'est héréditaire, problème cardiaque, mes grands-parents sont morts du cœur. Mon père voit un cardiologue. Je peux pas croire que mon père était sur une liste d'attente pour voir un cardiologue pendant qu'au CHUM, on a deux mois de cardiologue pour faire des horaires dans Excel.
Aucun sens. Puis à partir de là, dis-moi, Patrice, quand tu as cette idée-là, quand tu as cette envie de bâtir ça, tu le démontres à un médecin, il est intéressé par les horaires. Comment par la suite tu te mets en marche pour faire en sorte qu'une idée qui paraît intéressante, deviennent tranquillement un produit qui se matérialise. Quelles ont été les étapes subséquentes suite à cette révélation-là que tu as eue un petit peu en discutant avec ce médecin?
C'est quand on raconte l'histoire, ça a tout l'air d'être un aha moment, mais c'est rarement ça. Donc, c'est un processus de découverte. Puis quand on le raconte, on pense qu'on a eu une lumière qui nous a frappés. C'est moins ça. Donc, les preuves arrivent petit à petit. Donc, c'est de se relever les manches. Puis, c'est un peu cliché, mais l'entrepreneur, ben il se lance dans le vide. Puis, pendant qu'il est en train de tomber, ben il invente son parachute. Fait que c'est très cliché comme image, mais c'est un peu ça. Fait que des certitudes, il n'y en a pas. Fait que là, pendant que tu avances, c'est OK, j'ai une petite preuve que ça pourrait aller. J'ai parlé à des gens. Puis là, les gens me disent que oui, ça sera un besoin pour eux. Bon, mais là, j'avance encore un peu. Donc là, je décaisse de l'argent. Fait que j'ai mis mon argent, vendu les maisons, décaissé mes épargnes. Puis là, ben là, tu dis, OK, j'avance là-dedans. Puis là, ben là, quand t'as plus d'argent, ben là, il y a des anges qui disent, ah, on va mettre un peu d'argent dans ton affaire. Puis on va avancer. Donc, l'histoire se construit de peu à peu. Puis c'était tellement une certitude ce serait plus de l'entrepreneuriat, ce serait un projet d'investissement. Donc là, l'entrepreneur va toujours se valider jusqu'au prochain point, gère son risque un petit peu, puis là, ben ça a été le parcours du avec le bâton de pèlerin. Je veux dire, j'ai mis 400 000 km sur une voiture à visiter des chefs de département du Québec moi-même pour comprendre puis vendre moi-même tous les premiers groupes de médecins qui sont arrivés sur pétale.
Et je pense que ce qui est tellement fascinant dans ce que tu dis ici aujourd'hui, c'est que, et corrige-moi si je me trompe, j'ai pas envie de mettre des mots dans ta bouche, mais on dirait qu'en t'écoutant, il y avait clairement une acceptation de ton côté que tu t'attaquais à un problème qui, soyons honnêtes, est difficile, excessivement long à changer. Mais si on regarde le tout de 30 000 pieds dans les airs, ça peut être une énorme entreprise. C'est-à-dire que ce qui peut se dérouler sur 5, 6, 7, 8, 10 ans de ça, s'il y a un travail qui est bien fait, je veux dire, le système au complet est il y a beaucoup, on pourrait dire, de problématiques qui s'installent. Tu pouvais arriver et changer beaucoup de choses si, bien entendu, tu es capable de tenir ces 5, 6, 7, 8, 10 années-là.
Je pense qu'on a découvert des choses où le premier problème qu'on a résolu, donc d'aider les médecins, ça nous amenait vers une certaine taille d'entreprise. Donc, il y a juste 100 000 médecins au Canada. Donc là, on appelle ça du TAM, donc dont marché adressable total. Ça reste quand même un petit marché. Il y a 1 million de médecins aux États-Unis, il y a 100 000 médecins au Canada environ. Donc là, ben nous, ce qu'on a continué à faire, c'est qu'avec les succès du premier problème, ben on s'est aperçu qu'il y avait d'autres problèmes à régler. Donc ce qui est arrivé, ça a été le cycle d'innovation qui s'est ajouté au fur et à mesure qu'on avait des succès. Donc, quand on a eu 100 médecins, 1000 médecins, 5000 médecins, 10 000 médecins, 20 000 médecins, à un moment donné, il y a un hôpital qui a appelé. Et là, l'hôpital nous a dit, vous êtes qui, vous, pétale? Parce que là, j'ai plein de mes services hospitaliers qui viennent avec une feuille. Puis, c'est pas un reproche, là, votre feuille est fantastique parce qu'avant, on recevait des horaires de médecins sur plein de formats différents, des ratures, des écritures. Là, tout est bien fait, tout est bien imprimé, c'est fantastique. Mais au bas de la page, c'est marqué « Cette horaire a été faite avec l'application web Pétale ». Donc là, la question que le gestionnaire de l'hôpital m'a posée, c'est « Là, ça veut-tu dire que vous, Pétale, vous avez les horaires de mes médecins en temps réel? Puis moi, je gère ça sur une feuille de papier? » Je pense que oui. Donc là, est-ce qu'on peut vous parler? Donc là, on s'est assis avec l'hôpital. On a dit, oui, mais c'est quoi votre problème? Parce que nous autres, on règle le problème du médecin. Le médecin, lui, il faut qu'il fasse son horaire à tous les 3 mois, qu'il optimise le potentiel de son équipe puis qu'il serve le plus de patients possible selon les disponibilités, les préférences et les règles d'attribution. Ça, c'est le problème du médecin. Mais il dit, moi, là, comme hôpital, là, j'ai 45 départements qui m'amènent des horaires pas en même temps, pas sur le même format, pas sur la même durée. Puis à partir du moment qu'il dépose son horaire, il y a déjà des changements dont je suis même pas au courant. Et l'horaire est le début du processus pour commencer à prendre rendez-vous avec des patients. Il dit, c'est ça mon problème. Donc, on a créé Pétale pour l'hôpital. Donc là, on rassemble en temps réel toutes les horaires de médecins et on a ajouté la messagerie sécurisée. Donc aujourd'hui, un médecin qui est de garde, qui veut parler à son collègue en gynéco-obstétrie, mais il sait pas c'est qui, il le trouve sur l'application. Il est capable de manière sécurisée d'échanger des informations avec lui. Pas de padget, pas de fax, rien en temps réel. D'échanger des informations. On augmente la sécurité des patients. On diminue les temps de prise en charge juste avec les horaires.
Et là, ton TAM fait x10.
Le TAM vient d'exposé. Et là, ce qu'on fait, c'est que là, vu qu'on a tout, on a tous ces renseignements-là en temps réel, mais là, les hôpitaux nous approchent en nous disant « Sécurité publique, j'ai besoin de caler un code bleu dans ma région, un code rouge. » Donc, tous les professionnels de la santé peuvent être contactés directement en temps réel selon leurs affectations. Et, ben la vie étant ce qu'elle est, les enfants, j'ai eu un accident, je peux plus être de garde, faut que j'échange. Tous les changements se font en temps réel sur l'application. Les téléphonistes des hôpitaux y ont accès. et les procédures d'urgence, évidemment, sont maintenues à jour. Donc, tout ça avec la gestion du temps. Puis en partant de l'horaire du médecin, ben on a augmenté ça à non seulement qu'on s'occupe de la gestion des médecins, des infirmières, des autres professionnels de la santé, et on s'occupe de quel professionnel est où, quand. Et tous ces systèmes-là sont intégrés avec les systèmes de l'hôpital pour la prise de rendez-vous. Donc, tu vois qu'à partir d'une petite idée, ben on a continué à trouver d'autres problèmes, tout le temps basé sur la prémisse que on était dans la gestion médico-administrative et qu'on ajoutait des services. Et là, notre plateforme de gestion des capacités est vraiment rendue une plateforme qu'on appelle Enterprise. Donc, on continue d'aider les médecins, mais en même temps, on aide les hôpitaux, on aide les autorités de santé, ce qui nous a amené là, à un autre niveau pour la somme des problèmes, mais aussi tout ce qu'on fait gagner aux autorités de santé.
Donc, la compréhension d'une verticale spécifique, itérée autour de notre produit, itérée au niveau de notre clientèle. Et tranquillement, il y a plus en plus de choses qui s'offrent à nous. Et je pense qu'un point qui serait intéressant à décortiquer également pour notre audience aujourd'hui, Patrice, c'est, et corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression en t'écoutant parler que plus que tu avances dans ce processus-là, plus qu'il y a ce qu'on pourrait appeler ce qui s'intègre une prime au vainqueur. C'est-à-dire, en anglais, on utilise souvent le terme moat. C'est-à-dire, la difficulté pour une entreprise à rentrer dans une catégorie parce que le joueur numéro un en place a tellement bâti d'infrastructure que c'est quasiment impossible d'attaquer son château. Est-ce que je me trompe de dire que il doit pas y en avoir beaucoup des joueurs comme Pétale? Et plus que tu avances dans le processus, plus que ça doit faire peur pour des joueurs externes de se dire, ils ont tellement d'hôpitaux, ils ont tellement de médecins, ils ont tellement une masse critique que s'aventurer là-dedans, c'est peut-être assez compliqué, là.
On fait exactement le contraire, Antoine. Moi, j'ai beaucoup d'humilité envers la compétition. Puis, je me sens toujours menacé. Je prends jamais rien pour acquis et surtout pas un client. Donc, on est dans une business de constante innovation. Donc, ce qu'on vend, c'est pas de la technologie, on vend un abonnement à un service. Donc, aujourd'hui, on conserve 98,6% des revenus. Ça veut dire que personne s'en va presque de nos services. Et ça veut dire que le service après-vente, de s'assurer que nos clients continuent de voir les bénéfices, est aussi important que les cycles de vente initiaux. Donc, on est très humble par rapport à la compétition, on profite de ce qu'on a généré comme avantage compétitif, mais en même temps, on ne se place pas dans un état d'esprit où on pense que ça va suffire. Donc, on s'oblige tout le temps de continuer à inventer des choses. Puis, une des dernières choses qu'on a inventées, ça a été l'orchestration des soins. Puis ça, on en est très, très, très fiers parce que quand le Québec a commencé à vouloir générer des rendez-vous pour la première ligne, donc pour les cliniques médicales. Mais on s'est dit, bon, on fait déjà des horaires de médecins, on a déjà des mathématiciens, on est déjà dans l'intelligence artificielle. C'est parfait. On a des ingénieurs de ça. On va faire des rendez-vous. Et là, ben, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, on était capable de régler le problème à grande échelle, étant donné nos ambitions. Puis là, aujourd'hui, ben on gère 100% des rendez-vous de première ligne au Québec, qui est 20 millions de rendez-vous par année.
Et même si vous avez cette humilité-là, soyons honnêtes, il y a un réseau qui s'est bâti. Il y a ce fameux network effect qui se bâtit à travers tous vos services. Quand il y a autant de gens sur une plateforme, autant de médecins sur une plateforme, comme tu le dis, et ça me surprend pas d'entendre ces chiffres-là de 98%, ça doit être dangereux quasiment de sortir de votre plateforme quand tout ça est intégré. Et ça, c'est tout à votre honneur dans le sens que quand la technologie est bonne, quand la structure est bonne, les gens, ultimement les clients, ne peuvent plus s'en passer. C'est là qu'on crée vraiment une entreprise qui peut être assez importante, qui peut bâtir une très, très belle pérennité à travers le temps. On prend une petite pause sur l'épisode en cours pour vous parler de notre événement panel d'hypercroissance qui va avoir lieu le 24 mai prochain. On a été capable de vendre tous les billets de l'événement en moins de 72 heures, mais bonne nouvelle pour vous, on a ouvert des nouvelles places. On a trouvé une plus grande salle, une salle qui va pouvoir accueillir des centaines de personnes. Donc, si vous voulez vous procurer un billet, simplement aller voir le lien dans les notes de l'épisode. Et comme vous le savez, cet événement-là ne pourrait pas avoir lieu sans nos partenaires de l'événement. Le premier partenaire de l'événement, c'est le groupe Plante. Le groupe Plante, vous l'avez peut-être déjà entendu sur le podcast, c'est Simon Plante, qui est un conseiller en gestion de patrimoine qui a énormément de succès. Moi, personnellement, c'est une personne que je recommande parce que c'est avec lui que je travaille depuis un bon bout de temps déjà. Simon, c'est lui qui gère mon patrimoine, c'est lui qui gère mon portefeuille. Et si vous cherchez quelqu'un qui peut vous aider à mieux planifier vos finances, mieux planifier vos investissements à la bourse, Simon Plante est la personne avec qui vous devez parler. Donc, allez sur son site internet, le lien est dans les notes de l'épisode. Le deuxième partenaire qui nous aide pour l'événement, c'est Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une plateforme technologique qui vous aide à trouver votre partenaire marketing. Et Hello Darwin, pour vous donner un peu de contexte, ils ont plus de 5000 agences dans leur répertoire. Donc, vous cherchez quelqu'un pour votre site web, vous cherchez quelqu'un pour vos designs, vous cherchez quelqu'un pour vos campagnes vidéo, allez sur leur site internet et 100% gratuitement, Hello Darwin va être capable de vous mettre en relation avec un partenaire marketing. Nouveau service maintenant qu'ils offrent également, ils sont capables de vous accompagner pour vous aider à trouver les subventions dont vous désirez pour votre organisation. Et le dernier partenaire de l'événement, c'est Acombago. Acombago qui est le logiciel de comptabilité utilisé par plus de 40 000 PME partout au Québec. Donc, vous allez encourager l'événement Panel d'hypercroissance en encourageant nos sponsors. Allez jeter un petit coup d'œil à leur site internet. Allez regarder ce qu'ils font en ligne. Je suis convaincu que les trois organisations que je vous ai mentionnées vont être capables de vous aider. C'est des gens que je connais, c'est des gens que j'utilise, c'est des gens qui ont été capables vraiment d'aider J7 Media, l'entreprise que je dirige, dans son développement. Sur ce, on revient à l'épisode en cours.
Puis c'est tout le temps un win-win. Il faut chercher le win-win. Il faut que le client jamais se sente qu'il ne trouve plus son compte. Comme je te disais, Antoine, c'est un abonnement. Donc, les clients peuvent terminer leur abonnement. Donc, c'est important pour nous de créer l'innovation de manière constante et de vraiment s'asseoir dans le siège de nos clients et de se demander comment on fait pour continuer à améliorer. Tout ça. Puis, il y a beaucoup d'innovations qu'on a fait avec le CHUM, qui est un client extrêmement important pour nous. Le CHUM est excessivement innovateur. On a développé plein de belles choses avec des clients. Ça, c'est juste un exemple. C'est la même chose de ce qui est en train de se passer avec SickKids à Toronto. Puis donc, il y a des clients qui nous amènent ailleurs et avec lesquels on a des partenariats incroyables. On vient de finir là de déployer le Centre universitaire de santé McGill, c'est la même chose. Donc, ce genre de grands clients-là, très prestigieux, nous pousse une innovation constante.
Et bon, j'aimerais t'entendre un petit peu ici sur la dynamique de financement. Donc, bien entendu, quand tu commences à avoir le vent dans les voiles, que la technologie est fonctionnelle, qu'il y a une bonne acquisition de clients, qu'il y a une bonne rétention de clients, je pense que sans nécessairement dire, on va faire attention aux termes qu'on utilise ici, sans nécessairement dire que ça devient facile d'attirer des investisseurs. Disons qu'on a des meilleurs arguments. Quels étaient tes arguments au départ? Comment as-tu été capable de convaincre des gens de t'aider à bâtir cette technologie-là? Parce que tu es dans une catégorie que tu as besoin de fonds. Au final, tu peux investir ton propre argent, mais bon, à un certain moment donné, il faut la bâtir, cette technologie-là. Il faut les payer, ces ingénieurs-là. Comment tu as été capable un petit peu de séduire, entre parenthèses, les investisseurs au départ?
Notre histoire à nous a été de pas prendre de capital de risque. Donc, on n'a pas été financé par des VC, donc ce qu'on appelle du venture capital. On a été plutôt financé avec des angels. Puis, ce que je crois qui a convaincu, ça a été l'innovation et la rapidité à laquelle on signait des médecins. Donc, il y avait quand même un buzz. Puis, je crois que les gens ont aimé l'histoire. Il y a des investisseurs qui voyaient que on avait un système qui était SaaS, la technologie était moderne, on allait arriver à quelque part là-dedans. Donc, ça prend quand même une bonne dose de courage. On est pétale, c'est tout début, c'est pas un bon d'épargne. C'est pas un bon d'épargne gouvernementale, donc c'était très risqué. Il y a des gens qui ont cru. Et là, tu as raison, Antoine, de mentionner qu'avec une maturité, avec les revenus qu'on fait aujourd'hui, la grandeur de l'entreprise, on est capable d'avoir d'autres moyens de financement, des lignes de crédit, investissement Québec et partenaires chez nous. On fait de la dette avec la Banque de développement du Canada. Donc, on a un arsenal beaucoup plus complet qu'une jeune entreprise. Mais à un certain point, l'entrepreneur doit vraiment se transformer quand il prend du capital extérieur en soyant certain que quand tu prends du capital de l'extérieur, que tu te mets aussi dans la place des gens qui investissent et que tu dois être un véhicule de création de valeur. Donc, c'est souvent ce qui manque un petit peu dans les jeunes entrepreneurs. Ils connaissent bien leur domaine, connaissent bien leurs produits, mais ont pas totalement fait la transition quand ils acceptent de l'argent de l'extérieur, de se dire que maintenant, ils se doivent de retourner les profits et de retourner de la création de valeur aux investisseurs. Parce que sinon, ben, c'est pas un bon véhicule pour investir. Donc, on est content de ne pas avoir fait des erreurs qui nous auraient fait reculer, par exemple, dans la création de valeur. Donc, depuis le début, chaque investissement et chaque dollar qui a été investi dans Pétale a créé de la valeur. Ça, moi, je suis très fier. C'est qu'il y a personne qui a perdu son argent. Il y a personne qui a eu une dévalorisation de ton capital. Et tout ça, pour moi, c'est très important de continuer à créer de la valeur à chaque étape.
J'aimerais décortiquer ce point-là. La création de valeur, te parler de transition pour un entrepreneur entre une organisation qu'il peut gérer, qui, j'imagine, va générer du profit, avoir un certain nombre d'employés, peut être intéressante pour 2-3 actionnaires. Et là, ultimement, quand on s'en va chercher du capital de risque, il y a plus de personnes autour de la table et il y a plus de personnes qui ont des attentes plus élevées. Qu'est-ce que tu crois qu'un entrepreneur doit faire un petit peu comme transition de mindset, d'ajustement dans sa manière de gérer son entreprise pour bien comprendre le rôle d'un entrepreneur qui, là, va lever de l'argent pour bâtir quelque chose d'encore plus gros? Comment qu'on pourrait peut-être aider nos auditeurs à bien comprendre cette transition de mindset-là?
Fait qu'avant de répondre à cette question-là, une des aspects qui est important, puis que c'est pour Louis, pour moi, qui est importante, c'est la création de valeur dans notre société. Puis là, ensuite, on va revenir à la création de valeur dans l'entreprise. Mais une entreprise qui est créée au Québec, au Canada, dont les investisseurs sont des Canadiens, dont la propriété intellectuelle appartient à des Canadiens, ben on crée de la valeur dans notre industrie. Donc, on engage des gens, puis là, on participe au cycle de création de valeur de notre société. Donc, la propriété intellectuelle appartient pas à des étrangers. Les bénéfices ne vont pas à des étrangers. Les bénéfices reviennent dans notre société et cet argent-là peut même être réinvesti. Fait, moi, ce que je veux, c'est qu'Investissement Québec fasse plein d'argent avec Pétale, prenne cet argent-là puis encourage d'autres entreprises québécoises aussi à faire ça. Donc là, tu fais partie d'une roue qui crée de la valeur non seulement pour ton entreprise, mais aussi au sein de la société. Ça, c'est important pour nous d'être des propriétaires de notre propriété intellectuelle. C'est important d'être propriétaire chez nous. Puis en informatique, ben quand les propriétés intellectuelles sont ailleurs, quand les compagnies de jeux vidéo viennent de l'étranger chez nous, prendre des subventions, ramasser des employés, puis se battre contre nous autres pour amener ces employés-là chez nous, puis que toute la propriété intellectuelle va ailleurs, puis que tout le bénéfice va ailleurs, ben oui, on crée de la valeur parce qu'il y a des employés qui ont travaillé ici puis qui ont payé des impôts. Mais on n'est pas complet dans le cycle de création de valeur dans notre société. Donc ça, pour nous, c'est une valeur qui est très importante d'être ici, d'être Canadien, d'être Québécois, puis de profiter à 100% de la création de valeur dans notre société. Maintenant, pour revenir à ta question plus particulière, le déclic qui doit se faire, c'est que souvent l'entrepreneur, quand tu vas aller faire des pitchs, ben il va dire hey, j'ai un produit, mon produit c'est fantastique. Et là, pour reprendre l'exemple des médecins, j'ai un produit, mon médecin va être content, c'est fantastique. Et là, je vais lui charger de l'argent, puis il va être content de mon produit. Et puis là, ben là, je vais en vendre plein. C'est fantastique. Ce que l'investisseur plus sophistiqué veut savoir, c'est quoi les risques, c'est quoi la vélocité, c'est quoi le customer acquisition cost, c'est quoi tes métriques financières. Puis c'est ça la transition entre bien connaître ton marché, bien connaître le problème que tu veux résoudre, t'assurer que ce problème-là a une valeur sur le marché. Est-ce que ça a une valeur de régler ce problème-là? Pour qui? Et puis est-ce que les gens vont être prêts à payer? Et la valeur que je veux aller le vendre, est-ce que je fais une marge ou est-ce que c'est tellement compliqué pour moi de le construire que finalement, je fais pas d'argent au prix que je suis capable de... Donc, l'équation économique doit être compris de l'entrepreneur et ensuite doit vraiment venir à appuyer ses dires dans son modèle économique. Et là, c'est là que souvent on a des entrepreneurs qui parlent encore à des investisseurs en termes de produits, de problèmes, de marché et non en tant que d'investissement monétaire, de retour sur investissement, de coût d'acquisition, de marge brute, d'OPEX, d'EBITDA. Donc, c'est tout ce langage-là financier que l'entrepreneur doit apprendre et de faire une transition vers « OK, j'ai trouvé un problème, je me suis tellement investi dans le marché présentement, j'ai bien compris ça, mais maintenant, pour prendre de l'argent de l'extérieur et pour prouver à ces investisseurs-là que mon véhicule entrepreneurial est un véhicule qui va amener de la profitabilité, ben là, il y a une certaine transition à faire. Et là, ben de là les conseils d'administration, de là le mentorat, de là de s'entourer de gens comme j'ai fait, qui l'avaient déjà fait, pour nous amener, nous, entrepreneurs, vers cette compréhension-là de comment on doit devenir un dirigeant qui non seulement comprend bien son produit et son marché, mais aussi qui comprend bien le modèle économique de ce qu'il est en train de mettre en place.
Donc, cette sophistication financière-là, c'est un des points importants, je pense, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, de comprendre la distinction entre une belle entreprise et une entreprise qui, si possible, va être énorme, grande, va pouvoir créer de la valeur dans la société, va pouvoir ultimement également créer de la valeur aux actionnaires. Je pense que le point est intéressant ici de parler de dynamique économique, de dynamique financière, parce que j'aimerais parler avec toi maintenant un petit peu d'acquisition. Ultimement, on est capable avec notre équipe de bâtir un produit, de trouver ce qu'on appelle le product market fit, bref, de bâtir une preuve que c'est fonctionnel. Mais ultimement, à travers le temps, et je pense que vous avez été excessivement bon là-dedans, on écoute nos clients. Nos clients peuvent avoir d'autres défis, d'autres problèmes, et on veut ajouter des lignes de produits, on veut ajouter des lignes de services à notre solution. Et là, vous, de votre côté, vous avez fait 5 acquisitions à ce jour, des acquisitions qui, je crois, ont été faites surtout au niveau de la facturation médicale. On pourra en parler peut-être un petit peu plus en profondeur ensemble. Donc, les 5 acquisitions, pour les nommer, Medago, WorkOptics, Xact, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, Gestimed et BAM. Peut-être tu pourrais nous parler un petit peu, Patrice, de ces différentes acquisitions-là, les réflexions derrière et comment ça pouvait venir vous aider dans votre vision stratégique.
Absolument. Donc, il y a 2 moyens d'accélérer la croissance, là. Donc, il y a de la croissance qu'on appelle organique. Engager des vendeurs, faire des démonstrations, vendre ton produit, acquérir une nouvelle clientèle. Il y a aussi les acquisitions. Donc, acheter une compagnie existante qui ont un produit, qui a déjà une clientèle, qui a déjà des revenus et l'intégrer sur les produits existants à travers ta compagnie. Donc, nous, on est toujours en train de tout comparer. Ça nous coûte combien de manière organique ouvrir un nouveau marché? Qu'est-ce qui nous accélère plus? Est-ce que la croissance organique va être assez vite pour nos aspirations, pour la croissance qu'on recherche? Est-ce que les acquisitions vont nous amener de cette vitesse-là? Est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Donc, on est toujours constamment en train d'évaluer des acquisitions potentielles. On n'achète pas 20 % de tout ce qu'on analyse. Donc, on analyse beaucoup de choses dans le marché. Et on vient tout le temps comparer, est-ce que je mets $1 en acquisition ou je mets $1 en croissance organique? La santé est particulière, les cycles de vente sont particulièrement longs en croissance organique. Cependant, une fois qu'on est là, ben il y a une certaine longévité dans les contrats, dans les relations qu'on a avec nos clients existants. Donc, il y a une valeur d'investir des dollars en commercialisation pour aller chercher ces contrats-là. Et on balance toujours en facturation, comme on l'a fait en facturation pour ça. Donc, aujourd'hui, en facturation, on a des équipes qui font de la croissance organique, des nouveaux médecins s'enregistrent à tous les jours sur la plateforme Xact, et on fait des acquisitions en parallèle qui nous aident aussi à avoir un taux de croissance total qui est supérieur que si on avait juste fait des acquisitions ou juste fait de la croissance organique. Donc, vous pouvez vous imaginer que ce qu'on a fait dans les dernières années au Québec, Ben, on est en train de le faire présentement, puis dans les prochaines semaines, mois, on va annoncer d'autres acquisitions dans le reste du Canada. Donc, on travaille très fort là-dessus. Là, on a quelques annonces là, dans notre poche qu'on va être en mesure d'annoncer là, dans les prochaines semaines. Donc, on continue tout le temps cette dualité-là de voir notre dollar, on l'investit où. Puis, pour nous, c'est important là, l'accélération des acquisitions. Puis, à chaque fois qu'on fait une acquisition, bien évidemment, il y a des employés existants. Il y a de l'expertise qu'on vient chercher. Et puis, bien, on accélère le projet à ce moment-là.
Intéressant. Et bon, peut-être ici, juste pour renchérir un petit peu sur ce point-là, est-ce que tu serais d'accord de dire que ce volet d'acquisition, de croissance par acquisition, s'installe peut-être à un certain degré de maturité? C'est-à-dire qu'on doit faire nos preuves, on doit aller chercher une certaine base de clientèle avant de commencer vraiment à regarder ça, ou peut-être même au départ, ça peut s'installer dans une stratégie?
Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a donc une maturité organisationnelle. Donc, pour achever une acquisition, si notre propre organisation est pas mature au point de vue de la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la gestion légale, donc ça, si on n'est pas très mature nous-mêmes là-dedans, d'aller chercher une autre compagnie pour essayer de l'intégrer dans des systèmes qui sont pas matures, c'est sûr que ça peut être très difficile. D'un autre point de vue, si on manque de maturité en technologie, si on manque de maturité dans notre roadmap produit, puis qu'on prend une autre compagnie, puis qu'on l'ajoute à tout ça, ça ajoute aussi beaucoup de complexité. Donc, je pense qu'il y a une première question à se poser sur la maturité de sa propre entreprise, voir les reins assez solides pour accueillir et créer de la valeur, et pas finalement, par manque de qualité d'intégration, de laisser aller de la valeur. Donc, on a payé pour de la valeur, mais on n'a pas été capable de l'intégrer finalement. Donc, c'est de la valeur qui a été perdue par un manque d'efficacité d'intégration de la cible qu'on a acquise. Donc là, il y a vraiment une question à se poser sur la maturité organisationnelle avant de procéder à des acquisitions. Et deuxièmement, bien, il y a la maturité financière, économique. Donc là, s'il faut emprunter, ben, est-ce qu'on a les reins assez solides pour emprunter? Est-ce qu'on va avoir des plans de remboursement? Est-ce qu'on émet de la dette? Est-ce qu'on émet des actions? Comment on va financer les achats? Donc ça, c'est un autre aspect qui est hyper important de voir. Donc, tout le modèle économique, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de la maturité du modèle économique, ben de se lancer dans des acquisitions quand on n'a pas peut-être cette maturité-là d'avoir un modèle économique qui est stable, ben il peut nous amener plus de problèmes. Antoine, tu peux peut-être voir ça comme un levier. Donc, quand on investit à la bourse, si on investit sur marge, ça peut aller très rapidement. Ça peut aussi dégringoler trop rapidement. Donc, de faire des acquisitions, c'est un levier qui est intéressant. Cependant, si on n'a pas la maturité nécessaire, ça peut nous faire dégringoler plus rapidement à ce moment-là.
Et je pense que vous avez maintenant cette maturité-là. C'est ce qui, j'ai l'impression, de l'externe, vous permet d'avoir peut-être davantage confiance de faire ces acquisitions-là d'une province à l'autre, ou peut-être même ultimement d'un pays à l'autre. Les choses vont aller encore plus vite. Bon, Patrice, il y a un point que tu avais dit dans une conférence que tu avais donnée. Je pense que tu étais invité en 2019. Et je veux absolument amener ça à notre audience parce que j'avais trouvé ça donc fascinant.
Je suis pas sûr, Antoine, que je suis rassuré que tu sortes de moi quelque chose que j'ai dit en 2019, mais je t'écoute.
Donc, et je te cite à peu près, l'innovation à la base, c'est toujours une mauvaise idée, car une bonne idée s'est déjà rendue mainstream. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu voulais dire derrière ça?
Bien, ce que je veux dire, c'est que de l'innovation, c'est de défaire le statu quo. Donc, dans un système, dans une industrie, la majorité de l'industrie se satisfait du statu quo. Donc, quand tu arrives avec une innovation, la majorité de l'industrie, non, on n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas pourquoi tu me parles de ça. Moi, je trouve que j'en ai pas de problème. Mes revenus sont là. Moi, je fais partie de l'écosystème. J'adore le statu quo. Donc, de là l'idée de dire, ben souvent, une innovation, ça va être perçu par les gens comme, non, on n'a pas besoin de ça, je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va voir une situation qui est un statu quo et qui va vouloir briser le statu quo, qui va vouloir l'améliorer, qui va vouloir le changer. Donc, il faut pas, en tant qu'entrepreneur, trop se laisser influencer par les gens qui vont dire que c'est une mauvaise idée. Parce que la mauvaise idée, c'est ça l'innovation.
Mm-hmm.
Donc, il faut persévérer là-dedans. Puis ça veut pas dire que toutes les idées vont être bonnes à poursuivre, parce que des fois, il y a des bonnes idées qui ne deviennent pas un plan d'affaires. Des fois, il y a des bonnes idées qui ne méritent pas qu'on prenne autant de temps et d'énergie à résoudre les problèmes pour ces idées-là. Mais quand on a ça, ben j'amenais les entrepreneurs à réfléchir que quand une industrie au complet te dit que c'est une bonne idée, ben t'es pas mal rendu mainstream. Donc, c'était ça un peu l'idée de faire réagir les entrepreneurs avec le mindset entrepreneurial que à la base, ben on défait le statu quo.
Est-ce qu'on t'a souvent dit au départ que Pétal, c'était une mauvaise idée?
Bien sûr.
Trop souvent.
Trop souvent. Peut-être assez. Peut-être assez souvent pour nous permettre d'être là. Fait que, je veux dire, tout le monde a joué son rôle. Les gens qui voulaient rester dans le statu quo ont joué leur rôle puis ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Les premiers hôpitaux m'ont mis dehors à grand coup de pied au derrière en me disant qu'ils n'avaient pas besoin de nos services. Puis, je veux dire, ils ont joué leur rôle de statu quo. Puis peut-être que ça a même renforcé ma conviction de continuer là-dedans, parce que de me dire que le système, il fonctionnait pas, puis qu'on avait besoin de regarder ça sous un nouveau angle. Fait que j'aurais envie de te dire, Antoine, que tout le monde a joué son rôle.
Ils l'ont fait juste assez pour te donner envie de persévérer.
Et voilà.
Et qu'est-ce qui vous attend? Bon, dans les 12, 24, 36 prochains mois, tu nous parles d'acquisition, tu nous parles d'extension. Bien entendu, on est conscient qu'il y a beaucoup de choses qui restent confidentielles au moment où on se parle. Mais si on pouvait peut-être juste avoir un aperçu global, où s'en va Pétal? Quelles sont les prochaines initiatives qui arrivent avec l'entreprise?
Donc, Pétal a eu un parcours exceptionnel au Québec. Puis des fois, on dit « Ah, les entreprises au Québec sont pas capables de percer au Québec et tout ça. » Ben nous, ça a pas été facile. Mais au Québec, on a une histoire incroyable. On est un acteur très important, un partenaire du réseau de la santé avec le ministère. On est déployé dans la majorité des établissements. On est connecté à 100% des cliniques médicales du Québec. Les données qu'on est capable d'apporter au ministère sont incroyables. Il y a des choses qu'on fait, par exemple, la redirection des patients qui se présentent à l'urgence, qui sont redirigés vers des cliniques médicales. C'est une première au Canada. Les autres ministres de la Santé en bavent quand on leur parle de ce qu'on a fait au Québec. Donc là, dans les 18 à 36 prochains mois, on prend ces succès, on prend ces innovations-là et on les accélère dans les autres provinces canadiennes. Donc, on a l'ambition de doubler la taille de l'entreprise, doubler le nombre d'employés, ouvrir des bureaux satellites dans d'autres provinces. C'est important d'être présent. La santé, c'est un secteur provincial. C'est de juridiction provinciale. Donc, là, on a un bureau à Toronto qui a été ouvert l'été dernier. Il y a de plus en plus d'employés de Pétal qui sont engagés à Toronto. On a des gens au Manitoba. On est en train d'ouvrir un bureau en Colombie-Britannique. Donc, on fait ça pour tous les étages de l'entreprise. Donc, des employés vont être appelés, être embauchés dans différentes juridictions du Canada. Nos produits sont déployés à des clients. On est déjà déployé d'un océan à l'autre. On est déployé à l'île du Prince-Édouard, au Nunavut, au Nouveau-Brunswick, dans les provinces de l'Est, en Ontario, jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, mais là, c'est d'accélérer le déploiement plus agressivement. Et on fait ça au niveau des employés, mais on fait même ça au niveau de notre conseil d'administration. Donc, on recrute des nouveaux membres de notre conseil d'administration qui vont provenir de différentes géographies. Donc, on a recruté des gens de l'Ontario. Là, on est en train de recruter des gens du Nouveau-Brunswick pour compléter notre conseil d'administration. Et dans les prochains mois, on va mettre sur pied un comité national clinique aviseur avec des gens de l'industrie de la santé de chacune des provinces pour nous assister et nous conseiller dans le déploiement du reste de nos solutions. Et le Québec nous aide là-dedans. Le Québec est un partenaire incroyable. Les gens du ministère prennent le téléphone, parlent avec d'autres ministères. Donc, pour nous, ce déploiement-là canadien nous rend excessivement fiers. On est un peu chauvin de vraiment régler les problèmes du système de santé canadien, puis de mettre un petit peu l'épaule à la roue, puis d'apporter notre petite contribution là-dedans pour aider notre propre système. Donc, dans les 18-36 prochains mois, on est vraiment en train d'accélérer les acquisitions, les déploiements de nos produits à l'ensemble des territoires canadiens.
Exceptionnel. Félicitations pour tout ça, Patrick. Je pense que c'est important de le dire. Bien entendu, mais il y a besoin d'avoir un bon capitaine de bateau et je pense que Pétal en a un bon. Bon, peut-être des petites questions personnelles avant de terminer. J'aime toujours savoir ce que mes invités font dans leur temps libre. Comment ils sont capables également de rester à l'affût du monde des affaires? Lecture. Est-ce que tu es un lecteur? Est-ce que tu lis certains livres business? Est-ce qu'il y en a certains qui ont marqué ton imaginaire?
Je lis plein de choses. Mais tu vois sur mon bureau en temps réel.
Ben oui, bien sûr.
Donc là, j'étais à l'aéroport récemment, puis j'aime bien à l'aéroport. On a le temps. Donc, j'ai ramassé ça, les séries de Harvard Business Review. J'ai lu ça dernièrement
sur le leadership. On leadership.
J'adore ces petits recueils-là. C'est des articles Harvard Business Review. Ça se lit en diagonale. Il y a un abstract au début. C'est hyper efficace. Il y a le CEO de Medfar, qui est collègue. Elias m'a envoyé ça.
CEO Excellence. Ah, ben, je suis content de voir que vous connaissez bien, que vous discutez. CEO Ensuite, Excellence, excellent livre d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent.
Ensuite, comment Secret faire des présentations comme Steve Jobs.
Wow.
Donc, je parle à tous mes employés tous les 3 mois. Je parle aux actionnaires, évidemment, dans les boards. On a les comités. Je parle à des investisseurs potentiels. Je parle à des gros clients. Pour moi, c'est un exercice sans fin de pouvoir exprimer des idées de manière claire, de manière concise, d'y amener une émotion. Donc, ce livre-là est pour moi très intéressant. Et je ne fais pas juste lire des livres de business. Je viens de finir L'homme qui aimait les chiens de Leonardo Pedura. Donc, qui est sur une trame de l'assassinat de Trotsky et sur le régime communiste et sur le rêve brisé du communisme, surtout dans la Révolution espagnole et à Cuba. Donc, c'est très, très bien écrit. C'est bon livre.
Intéressant. Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu?
Non, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute pas de podcast. Je marche quand je suis à Québec. Quand je suis à Québec, je marche pour venir au bureau. Souvent, je prends des appels. Sinon, j'aime bien écouter Radio-Canada. Je suis un fan de la radio publique. J'ai profité pour moi, j'ai des t-shirts. Je collectionne les t-shirts de Radio-Canada.
Effectivement, pourquoi? Je pense qu'ils ont quelque chose qui leur appartient à eux. Ça, c'est clair.
Mais pour moi, une société qui se paie, il y a une radio publique. Il y a une télé publique. C'est une société qui se respecte. Donc, à la base, d'investir dans nos communications publiques. Pour moi, c'est à la base des fondements d'une société qui vise la démocratie, l'éducation, l'information. Donc, je suis un grand fan de Radio-Canada.
Intéressant. Et quelle est la routine du président? Tu nous parles que tu marches pour aller au bureau. À quoi ressemble une routine dans la vie de Patrice?
L'absence de routine.
Ah! Tu sais qu'un entrepreneur sur deux qui vient sur le podcast nous dit qu'il n'a aucune routine, qu'il ne veut pas en entendre parler. Donc, c'est pas la première fois que j'entends ça.
Donc, moi, j'essaie de faire des choses. De toute ma vie, j'ai essayé de m'entraîner. je suis quand même pas si mal. J'ai réussi, je continue à faire du vélo, je fais du ski. Ouais. Donc là, je m'oblige à m'entraîner parce que je m'inscris dans des événements. Ah. Et là, Antoine, je sais pas pourquoi, mais je suis allé m'inscrire la course de gravel, de vélo de gravel à JP le 20 avril. Oh. Et tu pourras comprendre que chaque petite bordée de neige m'éloigne d'aller m'entraîner avant le 20 avril. Donc, en faisant ça, je suis obligé de rouler. Je suis obligé de m'entraîner et je suis obligé de dormir des nuits respectables parce que c'est 85 km de gravel dans la boue et la neige le 20 avril prochain avec 1400 mètres d'ascension. Donc, je m'oblige à faire ça. Donc, je m'inscris à des raids de vélo de montagne, je m'inscris à des courses, puis je veux pas performer, je veux finir, je veux avoir du plaisir. Mais ces obligations-là m'obligent à mettre dans ma vie et dans mon absence de routine des plages où il faut absolument que je prenne un peu de temps pour m'entraîner. Et ça, ça me garde en équilibre ces obligations-là. Fait qu'une routine pour moi, je me lève à 6 heures le matin. J'aime beaucoup lire, donc j'épluche le matin le Globe, j'épluche la presse, j'épluche le site de Radio-Canada. En diagonale, je lis les nouvelles économiques, je lis les nouvelles, j'ai des alertes évidemment dans notre secteur d'activité, donc je lis toutes mes Google Alerts qui sont rentrées, les press releases, donc ça, je fais ça jusqu'à 6h30, 7h15. Et ensuite de ça, je me prépare. D'habitude, 8h, 8h30, je suis au bureau, je suis assis. Et là, ben, c'est très occupé. Évidemment, j'ai une assistante et une adjointe qui s'assure de la productivité de chaque minute de ma journée. Et quand la journée se termine vers 18h, j'essaie de m'entraîner. J'essaie.
Oh! OK, le soir.
Je suis pas toujours capable. Donc, c'est un défi dans les hôtels. J'apporte mon stock. J'essaie. Je ne réussis pas toujours. Mais pour moi, c'est un combat à tous les jours d'essayer de voir si je peux prendre une 3/4 d'heure pour essayer de m'entraîner un petit peu. Et ensuite de ça, quelques calls des fois en soirée, mais j'essaye. Mon cerveau est pas très bon à faire des choses trop complexes en fin de journée. Donc, souvent, je vais essayer de peut-être d'éclairer un ou deux dossiers en soirée, mais pas quelque chose qui va me demander beaucoup de concentration. Je me garde ça pour le matin. Et le samedi et le dimanche, ça me prend deux grandes sorties de sport pour aller prendre l'air. Et le dimanche matin, je me réserve quelques heures pour planifier la semaine, planifier mes déplacements et puis organiser un peu là comment je vais prioriser la prochaine semaine. Donc ça, d'habitude, je fais ça le dimanche matin.
Pour quelqu'un qui a pas de routine, c'est quand même assez bien établi tout ça, là.
Ouais, mais c'est un combat que souvent, tout est dérangé. Mais c'est un combat d'essayer de revenir à quelque chose. Puis chez Pétale, je fais les mêmes affaires aux 13 semaines. Donc, la compagnie fait les mêmes choses aux 13 semaines. Semaine 4, il y a le board. Semaine 3, je parle à mes execs. Semaine 1, c'est les rapports qui sortent. Semaine 2, etc., etc. Je fais les mêmes affaires à toutes les 13 semaines. On a les mêmes rencontres, les mêmes points de mesure, les mêmes rapports qui sortent aux 13 semaines. Et au fur et à mesure de notre croissance, on met à jour le 13 semaines. On change les points de mesure, on change les rencontres, mais la vie de Pétale, pour moi, c'est aux 13 semaines. Fait que tu auras compris que des vacances personnelles sont impossibles pour moi à la semaine 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au temps que j'aille fait mon board. Et là, ben, je suis capable de gérer mon temps, mes priorités avec mon équipe exécutive pour avoir certains trimestres où je suis capable de prendre des vacances personnelles à partir de la semaine 7, 8, 9. Là, je suis capable de me donner ça et j'aime bien revenir avant la fin du trimestre, m'assurer qu'on fait les chiffres à la semaine 10, 11, 12, 13 pour être présent, pour finaliser les résultats.
Excessivement structuré. J'adore ce que j'entends. Patrice, merci infiniment d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui.
C'est un plaisir, Antoine.
C'est exceptionnel un petit peu la manière que tu vois le monde des affaires parce que tu es capable de vulgariser des concepts des fois qui sont plus complexes à comprendre pour certaines personnes. Je pense que tu as une très, très bonne mainmise sur ton entreprise, sur la dynamique dans laquelle tu opères. Donc, félicitations pour tout ça. Si on veut en apprendre plus, peut-être vous avez des postes ouverts, peut-être qu'il y a des gens dans le domaine de la santé, il n'y en aura pas beaucoup qui ne connaissent pas votre solution, mais qui l'entendent pour la première fois. Meilleur endroit pour vous rejoindre.
Ah, le site web, on peut évidemment contacter nos équipes à partir de notre site web, laisser des messages, les postes ouverts sont disponibles sur notre site web. Il y a aussi tous les réseaux sociaux, on est présent sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, n'importe quel moyen, ça va se retrouver à la bonne personne au bon moment, pour la bonne raison.
Fantastique. Patrice Gilbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un entretien des plus fascinants. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.